Seigneur, notre Dieu, nous te louons parce que, Seigneur, tu nous as laissé ta parole, cette parole qui est éternelle. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Seigneur, cette parole est une encre solide de l'âme et, Seigneur, qui nous permet de te connaître de manière objective, non pas simplement avec nos sentiments, mais, Seigneur, cette parole, tu l'as permise qu'elle soit écrite, qu'elle ne change pas. Et nous te louons pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai un enseignement très pratique, très très pratique, mais il passe par des circonvolutions un peu difficiles. C'est pas de ma faute, c'est parce que le sujet est difficile. Donc il faudra beaucoup d'attention pour que vous puissiez me suivre. C'est le ministère de la femme. Alors est-ce qu'il y a des femmes qui sont là? Vous vous levez simplement. Comme ça, on peut voir le nombre de femmes qu'il y a. Et combien de femmes ici? Oula! Oh là là là! Voilà, maintenant les hommes, vous vous asseyez, on va voir la différence. Les hommes. Ah, il y a des hommes quand même! Ah oui, mais on est en minorité, hein, en nombre. Hein. Ah, il y en a encore un là-haut, qui se rajoute. Ah, il y a Kevin. Voilà. Non, j'ai fait ça non pas pour faire un contrepoids, mais pour montrer que, vous voyez, il y a beaucoup de femmes dans les églises. Et combien croient que les femmes ont un rôle et un ministère dans l'église? Levez la main. Ok. En tout cas, ce sentiment n'est pas partagé par tous les chrétiens. Hein. Sur la face de la terre, il y a beaucoup de chrétiens différents. Et il y a une raison à cela. Alors on va lire un passage que j'essaierai de vous traduire différemment que ce qu'on va lire. Mais bon, on va lire la traduction, hein, ce n'est pas l'original. Hein. Si on voulait lire l'original, il faudrait qu'on lise le grec. Il y en a qui connaissent le grec ici? Non. Bon, donc on est un peu mal, mais il faudrait qu'on lise le grec si on voulait comprendre l'original. Mais c'est pas si simple que ça, parce que même le grec, vous savez comme en français, si je vous parle, je sais pas, oui, non, mais même en français, il y a des mots que vous connaissez pas. Hein, si je trouve pas de mots difficiles, mais vous voyez, même dans une langue, il y a des mots difficiles, voilà. Donc il faut le reconnaître, et même lire dans le grec, si on connaît pas les mots, ou même en français, c'est pas bien. Et c'est un des problèmes de ce texte. Donc 1 Timothée, chapitre 2, de 9 à 15, c'est un passage qui parle du ministère de la femme, enfin du rôle, du ministère, de la fonction de la femme. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent, non avec des tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence et avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Quelles sont les personnes pour qui ça présente une difficulté de compréhension, ces versets? Levez la main, voir s'il y a une personne, deux, trois, hein, quand même un peu plus. En tout cas, pour moi, c'était incompréhensible jusqu'à ces dernières années où je me suis mis à réfléchir à cette question. Pourquoi? Parce qu'elle est paradoxale. Ce passage est paradoxal. On va le voir tout à l'heure. Or, nous croyons, et surtout après les messages que je vous ai donnés, à l'autorité de la parole. Il y en a qui croient ici à l'autorité de l'Écriture. Donc si nous croyons à l'autorité de l'Écriture, ça voudrait dire qu'il ne faut pas qu'on mette ce passage en question. Vous voyez ? Or, moi-même, j'ai entendu des théologiens, il n'y a pas longtemps de cela, très fameux, qui disaient « Oh, j'évoque pas ce passage-là, je fais comme s'il n'existait pas. » Pour un théologien, bon, ça me paraît un peu difficile, mais bon... Parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer, donc on passe outre et on laisse la femme, on laisse le ministère de la femme. Je ne suis pas de ceux-là, j'aime bien comprendre les choses, surtout quand il s'agit de la parole, parce que je crois que Dieu ne se contredit pas. Il y en a qui croient que Dieu se contredit? Non. Bon, bah oui, mais ce passage est quand même contradictoire. Donc, on va essayer de bien comprendre pourquoi ce passage s'oppose à d'autres passages. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire au juste ? Hein ? Le passage fait autorité pour imposer silence à la femme dans l'Église. Et alors, il y a certaines confessions chrétiennes qui le respectent à la lettre. Hein ? Pas de ministère, enfin, pour les femmes, etc. Quelle est l'intention de Dieu dans cet écrit, de 9 à 15, quand même, il y a plusieurs versets, et au travers de Paul, bien sûr, qu'il a écrit pour la femme. Y aurait-il un problème de traduction ? Alors moi, je dis oui, il y a un problème de traduction, pour la simple raison que, je vous l'ai déjà dit, ça renvoie à une hérésie qui était très courante, qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, hein, vous en faites pas, c'est pas réservé au 1er, 2e, 3e siècle. Aujourd'hui, cette hérésie existe, mais vous ne savez pas qu'elle existe. Et moi, je ne savais pas non plus, et je l'ai appris quand j'ai lu les livres de Leanne Payne ou d'autres qui parlaient du gnosticisme, que j'ai lu les commentaires qu'on a dans la Bible, mais qu'on ne lit pas souvent, qui sont dans toutes nos Bibles, Thomson ou autres, et qui parlent de la gnose, du gnosticisme. Je pensais que c'est pareil, un peu comme les idoles, je pensais que c'était réservé pour le temps passé, mais pas pour aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. C'est que l'hérésie gnostique, donc gnose, ça vient de grec connaissance, de la connaissance secrète, qui en général est réservée aux sectes, qui le passe de manière orale. Il n'y a rien d'écrit. Parce que bien, c'est le maître qui vous initie, et donc ce n'est pas écrit, et ça passe de maître en maître au travers des initiés. Et dans ces sectes-là, il n'y a rien écrit, donc du coup on ne sait pas ce qui s'y dit. Voilà. Et la seule chose qu'on connaissait jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, c'est uniquement ce que disaient les pères de l'Église, donc Augustin, etc., tous les premiers pères de l'Église qui se battaient, Irénée, d'autres, avec ces problèmes dans l'Église, parce que c'était à l'intérieur de l'Église, et Paul aussi se battait avec ça, Jean, Pierre, et tout ça, se battaient, parce que c'est une stratégie que l'ennemi utilise pour détruire l'Église de l'intérieur. Il n'y a rien de tel que... Vous savez, les Allemands, quand ils ont voulu détruire... et maîtriser, contrôler la France, ils envoyaient des espions de l'intérieur, c'était les facteurs qui étaient des espions, c'était tout le monde. Enfin, bon, genre, la cinquième colonne, voilà. Ça s'appelait la cinquième colonne. Et c'est la meilleure façon de détruire un royaume de l'intérieur. Et Satan utilise ça à travers de la gnose. Et c'est un récit, enfin ce passage-là, Paul lutte contre cette hérésie-là en mettant en garde Timothée, qui était un pasteur, et en disant attention, tu as affaire à des gens qui enseignent ça dans ton église, de manière, vous savez, dans les groupes de maison, de manière très très sournoise, et elle va détruire ton église, enfin l'église, l'assemblée. Et en fait, il n'y a que depuis 1947, donc c'est pas vieux, depuis 1947, qu'on sait exactement ce que ces gnostiques enseignaient. Tout simplement parce qu'on est tombé sur une grotte en Égypte, en Nag Hammadi, sur une grotte où on a découvert ces récits-là. Donc, vous vous rendez compte, pendant 20 siècles, on ne savait pas. Il n'y a que les mises en garde des pères de l'Église qui parlaient que des symptômes de cette hérésie, mais pas du contenu. Et maintenant, on connaît le contenu. Et grâce à ce contenu, grâce aux ordinateurs aussi, maintenant où on peut faire des recherches linguistiques, on peut mieux comprendre des mots. Il y a un mot, un verbe qui a été utilisé là, qu'on ne peut comprendre, qu'on peut traduire correctement. Et ce verbe, il change totalement la compréhension de ce passage. Donc, je vais essayer de vous emmener là, c'est le verbe « autotein », qui est « prendre autorité sur ». Alors, si on prend 1 Timothée, la lettre pastorale, c'est-à-dire une lettre qui est écrite à un pasteur qui est Timothée. Déjà, au verset 1er, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant, légitime dans la foi. » Et à ce moment-là, il était à Éphèse. Hein, verset 3, « Comme je t'y exhortais à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Vous voyez, on est dans une recommandation où Paul dit à Timothée, attention, fais attention, parce qu'il y a des enseignements faux, des doctrines fausses. Il faut que tu fasses très attention qu'elles ne soient pas enseignées. Elles sont enseignées de manière sournoise, et en particulier par les femmes. Donc, il le met en garde. Et Éphèse, c'est en Turquie. Vous savez où est la Turquie ? Celle qui prétend devenir l'Europe. Alors, c'est mal parti avec la Grèce et tout. C'est difficile d'intégrer des nouvelles difficultés. Donc, dans la Turquie, Éphèse est là. Et toute cette partie-là, c'était à une époque, c'était les Hittites, le royaume des Hittites, qui pendant longtemps on disait que ça n'existait pas parce qu'il n'y a que la Bible qui en parlait, donc la Bible en parle, c'est pas un livre scientifique, on n'y croit pas, et en fait on a découvert des cités archéologiques, les Hittites. Ce royaume-là a été remplacé par la Phrygie, les Phrygiens. Vous connaissez le bonnet phrygien ? Marianne, c'est la révolutionnaire, ont repris le bonnet phrygien de la Phrygie. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la Phrygie. Et maintenant, hop, c'est la Turquie, la Phrygie. Donc dans la Phrygie, il y avait un culte particulier. Vous savez, dans chaque pays, il y a des cultes, que ce soit à Babylone, en Égypte, en Perse, en Mésopotamie, tout ça. Et quel était ce culte particulier de la Phrygie ? Qu'est-ce que les Phrygiens ? D'ailleurs, au milieu de la Phrygie, il y avait des Gaulois. C'est des Galates. Galaties, ce sont des Galates. Il y avait des Gaulois qui sont venus et qui se sont installés. Quel était le culte particulier de la Phrygie ? Quelqu'un qui le connaît ici ? C'est le culte de la grande mère, la déesse mère, la reine du ciel et tout ça. Elle était vénérée ici à Éphèse par Artémis. Ici à Tars, où Paul était originaire de Tars, c'est Agdistis, simplement le nom qui change, mais c'est le culte de la mère. Ici c'est Cybèle. Cybèle, vous avez en France les révolutionnaires, on le met partout. Vous voyez, vous allez à Place de la Révolution, vous avez Marianne en Cybèle. Avec les lions et tout ça, c'est exactement la déesse mère. Donc, on n'invente rien, simplement on reprend les déesses, on leur donne des noms différents, on nous appelle Marianne, on nous appelle comme vous voulez. Et donc, c'était le déesse de la Mania Mater, la grande mère, la mère nature, si vous voulez. Et donc, c'était ce culte qui est à l'origine, effectivement, de ces fausses doctrines. La fausse doctrine, donc, est articulée au IIe siècle, donc en 141, c'est très rapide, il y a un prêtre de Cybèle, qui s'appelle Montanus, qui s'est converti et qui est devenu chrétien. Il a fait de tels ravages dans le christianisme à l'époque qu'il a failli basculer dans le montanisme, on appelle ça le montanisme. Et, on va le passer tout à l'heure. Si vous regardez ça, on n'en est pas encore là. Oui, non, c'est pas grave. Mais on n'en est pas encore là. Donc le montanisme a failli basculer effectivement le christianisme tellement cette fausse doctrine était importante. Alors ce matin, je voudrais juste... j'ai besoin d'un scribe, peut-être je sais que Charles, il écrit bien. Voilà, donc je vais vous donner les thèses. Alors c'est une formation, vous voyez, une formation qui dure plusieurs jours, donc je ne peux pas la résumer, enfin je ne peux pas vous faire ça. En 10 minutes, mais je vais quand même vous donner les thèses 2, 3, tu mets jusqu'à 10, les thèses qui sont développées par Alfred Kuhn, qui d'ailleurs ce matin, à l'instant même, à Vaux-sur-Seine, reçoit le titre d'honoris causa, avec de Védrine aussi. Voilà, donc ce matin c'est ce culte, donc en même temps on honore un peu cet homme qui est un théologien, qui est basé sur la parole. Il donne 10 thèses pour expliquer le ministère féminin. Premièrement, l'autorité de l'écriture. On se base sur l'autorité de l'écriture. Et nous, on veut se baser sur l'autorité de l'écriture, pas d'autres sources. C'est l'écriture seule qui nous donne la connaissance sur le ministère féminin. La deuxième thèse de Alfred Kuhn, c'est une question difficile. Mais question difficile. Il faut reconnaître les difficultés. Okay, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est pas non plus. J'ai pas de prétention de faciliter les choses. C'est une question difficile. La troisième thèse, c'est un paradoxe. C'est quoi le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que d'un côté, la femme doit se taire, la femme reste en silence. Et de l'autre côté, on lui permet d'enseigner les enfants. Pardon? Voilà, j'ai pas fini. Mais rien que d'enseigner les enfants, c'est la première chose qui est faite. Hein, une mère, déjà à la maison, elle enseigne les enfants. Est-ce que c'est parlé? Comment est-ce qu'elle enseigne? En parlant. Donc, on ne peut pas se taire. Elle enseigne à l'église, l'école du dimanche. Pratiquement toutes les dénominations, ils acceptent que les femmes, ils enseignent champ de mission. Bon, c'est très loin. Quand ils reviennent, bon, ils n'ont pas le droit de prendre la parole devant l'Assemblée, mais quand c'est très loin, bon, on ne le voit pas. Vous voyez les paradoxes, hein? C'est que le christianisme, dans toutes les confessions, hein, je ne suis pas là en train de juger qui que ce soit, simplement, on est dans un paradoxe où d'un côté, on lit que la femme se tait dans l'Église, et de l'autre côté, on lui donne un tas de ministères où elle enseigne. Donc, paradoxe. Quatrièmement, la parole de Dieu. Hein, on parle toujours de la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne que l'homme et la femme, donc homme et femme, sont complémentaires, mais égaux. Ok? On est toujours d'accord? La parole de Dieu, il enseigne ça. Donc, vous voyez, les problèmes ne peuvent s'accumuler. Cinquièmement, c'est au retour de Babylone. Vous savez, il y a deux exils. Hein. Il y a l'exil en Égypte, pour Israël, et l'exil à Babylone, hein, parce que Israël est tombé dans l'idolâtrie. Ce n'est qu'au retour de Babylone que les femmes ont été interdites à l'accès à la vie religieuse. Avant, en Israël, la femme avait l'accès à la vie religieuse. Ce n'est qu'à ce moment-là. Donc, au niveau de l'histoire, juste avant le retour de Jésus, avant la venue de Jésus. Le sixième thèse de d'Alfred Kuhn, c'est que les évangiles sont en contraste radical, et tu marques aussi des femmes remarquables. Femmes remarquables. Dans les évangiles, il y a des femmes remarquables. Pardon ? Sixième point, oui. Dans les évangiles, donc, on voit un contraste radical par rapport à cette thèse de la femme se taise. Septièmement, après l'ascension. Femme remarquable. Bon, on ne peut pas tout écrire, mais c'est juste pour que vous puissiez vous rappeler un peu les thèses. Le septième point de la thèse, c'est que après l'ascension, donc quand Jésus est parti, les femmes se sont associées aux hommes. Il y a eu une association très très forte dans la prière. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute, dans la prière. Ils se sont associés dans l'évangélisation. Ils se sont associés dans le service, dans le ministère, de manière très très forte. Et c'est les femmes qui ont vu Jésus ressusciter les premiers et tout ça. Oui. Et un tiers des personnes citées par Paul sont des femmes remarquables. Un tiers qui louent. Prisca et Aquilas, etc., etc. Donc, si vous prenez toutes les personnes, un tiers sont des femmes. Donc, vous voyez, là, le problème commence. Huitièmement, il y a 1 Corinthiens 14, 34, qui est aussi un verset très fort, hein, sur lequel les fondamentalistes s'appuient pour faire taire les femmes et pour leur interdire l'accès au ministère. 14, 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc c'est un deuxième passage hein, que dans Corinthiens, qui fait contraste, hein, qui s'oppose à toute cette liberté qu'on a vue précédemment. Et dans 1 Timothée 2,12, qu'on vient de lire, là, que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, eh bien, s'oppose aussi. Hein, donc 1 Timothée 2,12 s'oppose aussi à cet enseignement. Donc tout à l'heure, j'ai dit que je crois qu'en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Or là, visiblement, il y a des contradictions. Dixième point de la thèse, je cite encore qu'une, et après, on va passer à la suite. Il y a un mot qui s'appelle presbytéros. Oui, 8, c'est 1 Corinthiens 14, et 1 Timothée 2,12, c'est la neuvième thèse. Bon, je cite qu'une, là. Et la dernière thèse, c'est que le mot presbytéros, ça veut dire quoi en grec? Vous connaissez le mot presbytère? C'est quoi le presbytère? Pardon? Oui, le bâtiment. Mais, pardon? Non, évêque, c'est épiscopos. Épiscopos, superviseur. Presbyteros, c'est traduction en français? Pardon? Oui, il y a le mot prêtre, mais alors là, linguistique, je suis paumé, c'est au travers du latin, je ne sais pas quoi, donner le mot prêtre, c'est ancien. Presbyteros, du grec, c'est ancien, mais prêtre, c'est aussi tiré de là, mais je ne sais pas par quel biais. Presbyteros, c'est le nom, quand vous lisez ancien, Pierre va dire, je suis ancien et apôtre. Et en fait, il y a les ministères qui sont des fonctions, apôtre, prophète, je vous écoute, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Les cinq ministères d'Éphésiens 4 sont des fonctions. Okay ? Il y a une fonction associée au ministère. Et ancien, c'est un titre. C'est un titre. Okay ? C'est la différence entre ancien. On peut être ancien et avoir un ministère d'apôtre et un ministère, etc. Parce que c'est un titre. C'est comme vous dites, monsieur le maire, c'est un titre. Et il est directeur des communes et tout ça, enfin bon, où il peut avoir d'autres fonctions, vous voyez, etc. Donc, le titre, c'est le titre de gouvernement. Et là, Alfred Kuhn, c'est vrai dans la parole, c'est que le mot presbytéra, tu écris presbytéra, c'est le féminin de presbytéros qui est masculin, donc pour les femmes, il n'est cité qu'une seule fois, et ce n'est que pour des femmes âgées. Ce n'est pas pour un ministère féminin. Donc il semblerait que c'est la seule exception qui est faite pour les femmes. Alors bon, après, il faut expliquer, mais on n'en est pas là pour l'instant. Et je termine avec Kuhn qui, lui déjà, pour 1 Timothée 2,12, il traduit autrement, parce qu'il a fait toute la Bible en français courant, hein, en français même paraphrasé, hein, Kuhn, avec toute une équipe hein, dont fait partie aussi le doyen de la faculté aujourd'hui. Voilà comment il traduit. Je te remercie. Donc c'est juste pour vous rappeler ce qui reste. Donc Kuhn déjà rien qu'au niveau linguistique, il traduit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme » de manière suivante. Il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, de dispenser un enseignement d'autorité, virgule, s'arrogeant elle-même son autorité pour enseigner. » Donc déjà, ça donne du sens. Mais pour moi, ça ne donne pas le sens complet du verset 9 jusqu'au verset 15. Ça explique peut-être un peu le verset 12, de ne pas prendre d'autorité sur l'homme et d'enseigner un enseignement d'autorité qu'elle s'arroge le droit à elle-même. Mais ça n'explique pas, ça ne donne pas du sens du 9 au 15. Donc pour comprendre ce sens, il faut comprendre qu'il y a un enjeu spirituel derrière. Une fois de plus, c'est toujours l'enjeu spirituel qui explique les choses. Si vous prenez, on a lu tout à l'heure un Timothée au début, hein, il dit « Comme je t'ai exhorté », donc Paul s'adresse à Timothée, il dit « Demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies qui sont sans fin, qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu. » Et ensuite, au chapitre 4 de la même épître pastorale, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Il précise bien des doctrines de démons. C'est des doctrines de démons, les fausses doctrines. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité, etc. etc. Donc, vous voyez, on est dans les fausses doctrines et le verset 9 à 15 s'inscrit dans cette recommandation contre les fausses doctrines. Si vous prenez 2 Timothée, qui est la suite d'un Timothée, vous voyez qu'on est toujours dans la recommandation vis-à-vis d'un pasteur qui est aux prises avec ces fausses doctrines. Et il lui dit, au chapitre 3, verset 6, 2 Timothée, « Il en est parmi eux, donc parmi les faux docteurs, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché. » Et agités de passions variées. Ils apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à connaître, à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. C'est très fort. Hein, très fort. Eh bien, nous sommes dans cet enjeu spirituel. Satan veut détruire l'Église de l'intérieur par les fausses doctrines. Ça, je pense que vous le savez. Et la meilleure façon de détruire, c'est détruire l'unité. L'unité par rapport à la vérité, l'unité par rapport au contenu de la parole de Dieu dans sa vérité. Et le serpent, il a une stratégie, vous savez, stratégie diabolique, qui est très simple. La meilleure façon pour lui, c'est de jamais se montrer. C'est-à-dire qu'il agit sans que personne ne s'en rende compte, et c'est la meilleure stratégie de destruction, parce que vous avez l'impression que votre ennemi, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Alors, meilleure façon, c'est d'utiliser l'altérité. Et aujourd'hui, on ne veut plus l'altérité. C'est pour ça qu'il y a l'homosexualité. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, parce que l'autre est tellement différent qu'il faut beaucoup d'efforts pour arriver à s'arranger. Donc, vous avez un homme, vous avez une femme, d'accord ? Et aujourd'hui, grâce à tout les progrès de la science et de la médecine, on sait que l'homme et la femme sont différents. Mais on l'a toujours su, mais on le sait maintenant concrètement, que le cerveau n'est pas le même, que, parce que Dieu a fait les choses différentes. Hein. Et donc il y a déjà une différence, et Satan il aime bien pousser chacun aux extrêmes. Voyez-vous ? C'est ça qu'il fait. Il pousse aux extrêmes. Hein. Là, c'est le machisme, là c'est le féminisme. Okay ? Chacun revendique ses droits. Et ce qui fait qu'après, ben ça fait des conflits beaucoup plus faciles, hein, et qui sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Il suffit qu'ils lastiquent un peu, hein, qu'ils poussent chacun vers l'extrémité. Hein, ça se fait dans tous les domaines, si vous voulez. Mais concernant notre sujet, c'est comme ça qu'il agit. Donc, simplement, il pousse. Ça s'appelle influencer. Vous voyez, influence, mais vous ne voyez pas sa main. Oh! Qu'est-ce qui se passe, hein? Bon, bah, ça y est, il pousse. Deuxièmement, donc ça c'est le combat spirituel. Hein. C'est-à-dire qu'il pousse pour que ça se détruise tout seul, s'auto-détruise. Donc dans le couple, dans l'église. Hein, au niveau du machisme, féminisme, donc excès du féminin et du masculin. Deuxième chose, l'enjeu spirituel, c'est que Satan, il déteste la femme. Hein, il déteste l'homme aussi. Et il exploite toutes ses faiblesses. On a tous des faiblesses, hein. L'homme a des faiblesses, la femme a des faiblesses, et il exploite. À tel point que même des pères de l'Église, des gens comme saint Augustin, qui est fondateur de toute la foi chrétienne, puisqu'il a vécu au IIe siècle, il a fait des écrits qui sont très dommageables pour le ministère féminin. Je vous lis ses écrits, hein, pour vous rendre compte que, à cause de ses excès, à cause de ses fausses doctrines, et je reviendrai tout à l'heure de ses gnoses, qui essentiellement sont répandues par des femmes. En Phrygie, par exemple, où il y avait le matriarcat. En Phrygie, il y avait. Vous connaissez les Amazones ? Ben, c'est ça. Les Amazones, vous savez, c'est l'extrême inverse du féminin. C'est que c'est des femmes qui montent des chevaux, qui font la guerre, qui s'enlèvent les seins, qui sont comme les hommes et tout ça. Enfin, c'est les Amazones, vous voyez, c'est l'extrême, hein, qui n'est plus du tout féminin. C'est un succès d'année. Bah, voilà, c'est en Phrygie qu'il y avait les Amazones. Et tout était du matriarcat. C'était les femmes qui commandaient, hein, c'est les femmes qui dirigeaient. Donc on est dans l'extrême inverse. Et à cause de la rapidité de ces hommes, comme Saint-Augustin, de dire ces choses-là, eh bien, ça a enfermé le christianisme dans cette incompréhension du ministère féminin. Voilà ce qu'il dit. En vérité, les femmes constituent une race faible, peu fiable, d'une intelligence médiocre. Je lis, hein, je lis. Hein. Père de l'Église. Hein. Okay. Je m'excuse pour les femmes qui sont là, mais ça fait autorité. Une fois de plus, nous voyons que le diable sait bien comment faire pour que les femmes délivrent des enseignements aussi ridicules, comme il a déjà bien réussi à le faire dans le cas de Quintilla, Maxima et Priscilla. Alors bon, ça c'est l'hérésie de Montanus, hein, parce que Montanus s'est entouré de femmes, parce qu'il a commencé à prophétiser en extase. Il avait deux femmes qu'il a fait divorcer et qui l'ont suivi et qui prophétisaient. Tout le Moyen-Orient venait de les écouter. Tellement elles étaient puissantes dans la prophétie, séductrices, forcément, elles ont capacité de séduire les hommes. Donc, des livres, des enseignements aussi ridicules, les Pépusiens, donc c'est eux, les Quintiliens, ainsi nommés, d'un endroit d'Épiphane, dit avoir été autrefois une ville maintenant déserte. Il la regarde comme chose en quelque sorte divine et lui donne conséquemment le nom de Jérusalem. Ils ont appelé leur nom, là où ils prophétisaient, Jérusalem. Chez eux, les femmes jouissent d'une telle autorité que par honneur, on les élève au sacerdoce. Jusqu'à dire de Quintilla et de Priscilla, le Christ leur était apparu dans la ville de Pépouse, là où ils étaient, où faisaient leurs prophéties, leurs oracles, sous les traits d'une femme. Jésus leur est apparu comme le trait d'une femme. Tout était féminin. Dieu était féminin, Christ était féminin. Ainsi les nomme-t-on, différemment pépusiens, quintiliens, les mystères sanglants, parce qu'ils faisaient des sacrifices de bébés, d'hommes, pour agrémenter le tout, dont j'ai parlé en expliquant les œuvres des cataphrygiens, donc les phrygiens, se voient aussi parmi eux et paraissent indiquer l'origine de leur secte, bien sûr, satanique. Il paraît enfin d'autres... auteurs de Pépuse étaient non pas une ville, mais une maison de campagne, etc. Et ils ont cru leur donner le nom de Jérusalem. C'est pas triste, hein, la vie d'église. Hein. Là, je parle autant des apôtres, hein, de Paul, mais ensuite, 1er siècle, 2e siècle, etc. Et ça ne fait que. Et aujourd'hui, nous sommes aussi. Hein, je reviendrai plus tard comment cette gnose se manifeste aujourd'hui, et Liane Payne en parle tout le temps. Elle a très bien compris le problème. Alors voilà comment j'aimerais vous faire la traduction. Alors, s'il y a deux personnes qui veulent bien distribuer ces feuilles d'un côté et de l'autre, je vais vous proposer une traduction qui, pour moi, est conforme à ce que Paul voulait dire. Et je m'appuie sur différents livres. Hein. Là, j'ai le premier livre que j'ai lu, c'est une thèse de doctorat aux États-Unis, d'une personne qui a sondé ce que c'est que ces gnoses grâce aux documents de Nag Hammadi et qui fait la proposition que je vous fais là, hein, donc ce n'est pas de moi, mais je suis tout à fait en accord avec cette compréhension qui va vous donner exactement la compréhension de ce que Paul voulait dire. Enfin, à mon avis, ça prend tout son sens. Est-ce que quelqu'un veut passer les slides là? Non, juste appuyer sur l'ordinateur. Parce qu'il est un peu loin. Je me suis mal pris un peu. Voilà. Juste appuyer dessus pour que ça avance. Il y a quatre raisons pour lesquelles Paul écrit les recommandations à Timothée. Pour le mettre en garde contre les enseignements, donc. Gnostique, c'est simplement des connaissances. Hein. Oubliez le mot compliqué, gnostique. C'est des connaissances secrètes. C'est-à-dire que Satan révèle à quelqu'un et ensuite, après, ça passe de l'un à l'autre. Et c'est toujours oral. C'est jamais écrit parce que, justement, comme c'est des choses qui n'ont pas de sens, quoi, qui sont tellement ridicules, comme le dit saint Augustin, on peut le dire que dans un cercle fermé, avec tout un tas d'artifices, drogue, sexualité, débridé, enfin toute la corruption que vous voulez. Et il faut que les personnes l'acceptent et ensuite après on leur dit oh, c'est de l'extase. Hein. L'union sexuelle c'était l'extase, c'était le divin et tout ça dans ces milieux gnostiques. Donc c'était complètement corrompu. Et donc il lutte contre ces enseignements de son temps qui étaient portés par des femmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il disait ce sont des femmes d'un esprit faible. Les faux docteurs allaient dans les maisons, ils leur racontaient ça aux femmes, et ils glorifiaient les femmes, et donc elles le transmettaient et elles l'exposaient dans l'église, à Éphèse, à Timothée. Alors, dans votre papier, on a le premier verset qui est traduit actuellement, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc en fait, qu'elle se taise, quoi. Qu'elle reste en silence. On peut traduire toujours avec les mêmes mots. Hein. Ce n'est pas déformer les mots, c'est simplement prendre les mots grecs hein, et leur donner le sens qui est derrière la mise en garde de ces fausses doctrines. Que la femme apprenne en toute soumission et en silence. Vous êtes d'accord avec ça? Que la femme apprenne en toute soumission. C'est d'ailleurs... pas uniquement réservé à la femme. Là, c'est dans le cadre de la femme, mais l'homme aussi. Il va apprendre en toute soumission. Vous voyez, l'apprentissage par nature, d'ailleurs à l'époque de Paul, c'était, vous aviez un maître Et vous, disciples, vous vous écoutiez. Vous n'allez pas le contester. Vous pouvez le contester le jour où vous devenez maître et vous avez une autre théorie. Peu importe. Mais quand vous êtes disciple, vous êtes à l'écoute. Vous êtes en soumission. Et le mot silence et soumission, en fait, c'est le même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas parler en même temps que le maître, sinon on ne comprend rien. Voyez. Donc le silence, c'est la notion de soumission, de soumettre à cet enseignement pour qu'on le reçoive et qu'on l'ingurgite, qu'on le connaisse. Voyez, c'est tout simple. Donc l'apôtre, dans le verset 11, dit simplement, toutes ces femmes-là qui viennent, qui veulent transmettre leurs connaissances secrètes, soi-disant secrètes, là, et pour passer cette fausse doctrine, eh bien non, il faut que ces femmes-là, elles apprennent en silence et qu'elles ne passent pas leur message. Donc là, la première chose, c'est que dans la gnose, inspirée par les puissances spirituelles, émancipe la femme de tous les tabous, les préjugés de l'homme, et l'affuble, donc que l'homme l'affuble, et lui donne un sentiment de libération et de faux salut. La femme se sent valorisée, se trouve poussée à la soumission, en particulier par rapport aux Écritures. Parce que toutes ces connaissances secrètes tordent complètement les Écritures et mettent en relief la femme comme étant le sommet de la gloire. Et Nag Hammadi, donc les livres dont j'ai parlé en 47, eh bien, ont révélé les écrits gnostiques qui, par la corruption des Écritures, donnent à la femme ce statut de sauveur de l'homme. Quels sont ces écrits ? C'est l'évangile de Judas. Judas écrit un livre, soi-disant, on l'a écrit à sa place, mais bon, c'était pour expliquer que Judas était un héros. C'était pas tout à fait le contraire de ce qu'enseigne la Bible, mais eux, ils ont la vérité, et donc Judas était un héros qui a sauvé l'homme, et donc elle met en valeur la femme. Dans tous ces livres des évangiles gnostiques, l'évangile de Marie aussi, l'évangile de Philippe, l'évangile, tout ça. Et justement, les pères de l'Église ont fait le canon au IIe siècle. Ils ont ce qu'on appelle aussi les écrits apocryphes, ne les ont pas retenus parce que justement, ils contenaient toutes ces corruptions. Le deuxième verset qu'on va prendre, donc je vais être très vite, si quelqu'un peut le passer. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quelqu'un peut passer ? Non, c'est devant qu'il faut le faire. C'est Charles, je crois. Enfin, juste appuyer. Non ? Oh là, ils ont pris la main. Super. Merci. Donc, le deuxième passage, c'est celui-là. Et moi, le livre qui est là. Alors, effectivement, il y a un mot là, ni de prendre autorité. C'est le mot autotein. Et le mot totain est très très compliqué à utiliser. Vous savez, un mot ou un verbe, il est utilisé de différentes manières, suivant le contexte. Et bien sûr, le mot immédiat le plus simple, c'est prendre autorité. En fait, il veut dire autre chose. Il est utilisé justement dans ces écrits gnostiques où il veut dire changer de sexe, changer, vous voyez. Et c'est étonnant parce qu'en ce moment, ils veulent, dans les écoles, passer cette loi de changer de genre. On choisit son genre. Et ça, c'est gnostique. Vous voyez, ça, c'est d'origine gnostique. C'est qu'on peut changer de genre, c'est-à-dire un homme peut être une femme peut être un homme, etc. Et c'est ça qui est utilisé dans ce mot autotein. C'est-à-dire changer de genre, changer de sexe. Et donc, si on traduit ce mot dans le grec en français, voilà ce que ça donne. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de se présenter elle-même comme origine de l'homme, comme origine, comme source de l'homme, mais elle doit se conformer aux Écritures. On pourrait aussi, d'après ce qu'ils disent, comprendre la traduction, comprendre l'original, ou garder ce secret pour elle. S'il a un secret de ce genre-là, qu'elle le garde pour elle, mais pas dans l'Assemblée. Parce que dans l'Assemblée, ça fait désordre, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu enseigne. Vous voyez, donc c'est tout à fait conformer les choses à l'Écriture. Donc elle garde ça pour elle, ou tout au moins qu'elle se conforme aux Écritures, qui ne dit pas que la femme est à l'origine. Et dans les écrits gnostiques, qu'est-ce qu'ils disent ? Donc tout ça, c'est des découvertes qu'on a fait récemment. La femme, dans l'enseignement gnostique, est mise en avant au rang de source. Elle est origine de vie, de prophétesse, de prêtresse, de médiatrice. La gnose glorifie la femme. L'influence est déterminante sur les femmes à l'esprit faible, bien sûr, ça les valorise. Cherchant la vérité sans jamais la trouver, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Bon, la gnose, donc c'est des enseignements secrets qui sont faits de bouche à bouche, enfin de bouche à oreille, et dans le secret, dans les maisons, tout ça, donc personne ne peut entendre, donc il n'y a pas de contradiction, donc les gens peuvent gober ça. Eh bien, ils disent que... Alors, je vous passe les détails, mais là, j'ai mis des années pour comprendre ça, parce qu'il faut être tordu pour le comprendre. Il faut dire que dans la Genèse, ils réinterprètent complètement la Genèse. Telle que la Genèse est écrite, c'est réinterprété. Ils disent que quand Dieu a fait dormir l'homme, il prend une côte, et puis il a sorti Ève. Ce passage-là, ils le traduisent en disant, eh ben, l'homme, il a dormi, hein, parce qu'en fait c'était un niais, il a été rentré dans la matière et tout ça. Puis la femme, c'est elle qui a donné la vie spirituelle. C'est elle qui est à l'origine de toute la vie spirituelle, parce qu'elle, elle a compris ce que c'est, et c'est grâce à elle que l'homme va trouver la vie. Voyez-vous, c'est tordu, mais quand on y croit, on rentre dans un système complètement loufoque, et ce qui fait que on dit que, oui, c'est pas l'homme qui a été créé le premier, c'est la femme. C'est la femme. Parce que ce qui est important, c'est le spirituel, puisque la matière... Et nous, c'est de la pesanteur, ça nous donne un poids inutile, on a des problèmes, des maladies, des choses comme ça. Ce qui est important, c'est le spirituel. Or, c'est la femme qui a reçu le spirituel, c'est pas l'homme. Donc, il faut écouter la femme, parce que c'est elle qui va donner à l'homme la révélation. C'est par elle que passe la révélation, c'est par elle qui est la source. Elle est la source, c'est pour ça la mania mater, la mère nourricière, la mère, elle est élevée. Ève est une déesse. Dans les réécrits gnostiques, c'est Ève qui est adorée comme une déesse, parce que c'est elle qui donne. Et Dieu, le Dieu d'Israël, est considéré comme mauvais, c'est un méchant, parce qu'il a mis l'homme dans la matière. Or, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est le spirituel, c'est pas la matière. Vous voyez, tout ce qui est exploité, c'est ensuite magnifié. Donc, le deuxième point, c'est pour répondre à cette question, c'est que... c'est la troisième, ça ? Car Adam était formé le premier, on cite, ça n'a pas changé. Disons, au niveau du verset, mais ça prend tout son sens. Le verset 13 et le verset 14, car... Adam était formé le premier, Ève ensuite. Pourquoi Paul dit ça? Pas besoin de le dire, c'est marqué dans la Bible, dans la Genèse. Oui, mais chez les gnostiques, c'est inversé. C'est pas la femme qui était près le premier, c'est pas l'homme, c'est la femme. Pour faire passer cet enseignement. Voyez-vous. Et c'est pour ça que dans les écrits gnostiques, la femme dit que c'est Ève qui était premier. La première, et que c'est Ève qui a reçu l'illumination par la révélation secrète du serpent. Sur le serpent, c'est celui qui donne la vie, la lumière. Cette révélation est source de salut et d'émancipation de l'humanité, en commençant par la femme, bien sûr. Grâce à cette révélation, il a pu donner la vie à l'homme, d'où Ève est la grande mère de tous les vivants. C'est-à-dire Ève, c'est-à-dire mère des vivants. Et c'est Adam qui l'appelait Ève, c'est pas Dieu. La gnose enseigne qu'Adam a été séduit par les esprits supérieurs qui lui ont donné la mort spirituelle, et grâce à la gnose donnée à la femme, il peut retrouver la vie. Et vous, il faut bien sûr rentrer dans quelque chose de tordu pour le comprendre, mais c'est comme ça. C'est ce qui est enseigné dans ces sectes-là. L'autre verset, donc quatrième difficulté, enfin, qui n'en est plus une fois qu'on a compris, c'est ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Là aussi, Paul enfonce des portes ouvertes, c'est ce que dit la Genèse. Oui, mais on peut avoir la suite. Mais la gnose, elle dit autre chose. Puisque les femmes sont acceptables devant Dieu tout en étant mères. Non, ah oui, c'est la 14. Attends, non. Ah oui, la précédente, on l'avait ? Je suis perdu là. Ah oui, parce que 13 et 14, oui, sont liés. Donc la 13 et la 14, on n'a pas besoin de les traduire différemment, parce que c'est une traduction simple qui est compréhensible. Mais quand on lit là, on ne comprend pas pourquoi Paul parle de ça. Alors que là, dans le contexte de l'hérésie gnostique, on le comprend. Et le dernier, le verset 15, j'ai demandé à beaucoup de théologiens de m'expliquer ça, Et ils l'ont expliqué par Marie, mais moi ça ne me convenait pas. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, la femme doit être mère pour être sauvée. Donc, toi, tu n'es pas sauvée, tu n'es pas mère. Tant pis pour toi. Tu vois ceux qui ne sont pas mères, qui sont femmes, Sarah, tu n'es pas sauvée. Tu n'es pas mère. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est bizarre, ça. Il faut comprendre, ça. Ça se comprend tout simplement pour, quand vous comprenez ce qui est enseigné chez l'hygnose. Dans l'hygnose, la femme peut être sauvée et doit être comme l'homme. Pourquoi ils ont inventé ça? C'est comme ça. Vous savez, les Amazones, hein, il faut être comme l'homme. Comme l'homme, ne pas avoir d'enfants. Et si elle en a, elles sont avortées hein, dans ces sectes-là. C'est pour ça qu'il y a les matrones qui portent les enfants, mais les femmes qui sont sauvées n'ont pas d'enfants. Et si elles en ont, parce que bon, hop, on les élimine, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient d'enfants. Vous voyez l'idée que l'ennemi a derrière, c'est détruire la vie, c'est détruire, etc. Et donc ça s'est enseigné, c'est la base de l'enseignement des enseignements gnostiques auxquels on a affaire. Donc vous comprenez que là, quand on comprend ce que Paul est en train d'écrire, non seulement on ne va pas se mettre du côté des gens qui disent « mais Paul est misogyne », mais on va dire exactement l'inverse. Paul fait l'apologie de la féminité. Paul justement défend la féminité. Il défend, parce que si on traduit ça correctement, on peut traduire ça, les femmes sont acceptables devant Dieu tout en étant mères. Non pas elles doivent pas être mères, tout en étant mères. Vous voyez, c'est simplement un petit problème de traduction et ça change tout. Tout en étant mères. Et on peut rajouter, mais ça c'est entre parenthèses, n'ont pas besoin de changer d'identité sexuelle pour trouver le salut. Elles ont le salut. Parce qu'il y a d'autres passages dans Galates, il n'y a ni homme ni femme. C'est pas la sexualité qui joue dans le salut. C'est si on accepte Jésus. Et qu'elle persévère dans la foi, l'amour, la sainteté avec bon sens. C'est simplement une apologie de la féminité que Paul est en train de faire. Il valorise le fait que la mère, que la femme peut être mère, bon, si elle ne l'est pas, ce n'est pas un problème, elle est sauvée par le sacrifice de Jésus, mais même si elle est mère, elle est sauvée quand même. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec tous ces enseignements ridicules hein, que certaines personnes gobent parce qu'on valorise en fait leur féminité. Voilà. Un exercice extrêmement difficile de faire ça rapidement, hein, mais bon, si vous voulez en savoir plus, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, on peut faire un enseignement là-dessus, ou pour ceux qui veulent creuser la question. Mais moi, je pense que ces traductions, qui d'ailleurs changent pas grand-chose, mais les seuls mots qui changent que vous avez sur vos feuilles, mais vous font comprendre que Paul met en garde Timothée, mais aussi aujourd'hui. Hein, et ça, je vous en dirai un autre jour. Comment ces fameux enseignements gnostiques aujourd'hui sont répandus par le bouddhisme, par le yoga, par tout ça? Et que ça ressurgit d'une autre manière, et que nous avons affaire aux mêmes difficultés qu'à l'époque où on veut détruire le noyau familial, le noyau de l'Église, au travers d'un féminisme ou d'un machisme. Hein. Effectivement, la chrétienté est rentrée dans le machisme parce que c'est aberration ridicule des enseignements qui pourtant sont portés par les femmes, parce que eh bien, Satan, il se délecte avec ça, eh bien, fait que maintenant on est dans un système bloqué. Mais si on est vraiment appuyé sur le Seigneur, moi je dirais que les femmes sont appelées au ministère, et à tous les ministères. Je ferai une petite exception par rapport au presbytéros, l'ancien, parce que je pense que pour être ancien, c'est-à-dire le titre d'ancien, hein, déjà on n'a pas besoin de titre, hein, le ministère suffit. Si la femme prophétise, si la femme évangélise, si la femme fonde des églises, toutes ces fonctions lui sont accessibles d'après la parole de Dieu. Et là, ça prend du sens, puisqu'il n'y a ni homme ni femme. Je dirais que la fonction d'ancien, le titre d'ancien, est plus difficile à porter pour une femme, tout simplement parce que moi qui suis ancien, je peux vous dire qu'il faut des sacrées épaules pour résister à l'ennemi.
il faut avoir des pressions. On a des pressions énormes, et encore, nous, c'est rien, hein, mais si vous prenez des églises beaucoup plus grandes. Et je pense que ce n'est pas fait pour une femme, parce qu'elle perd sa féminité. Donc, il y a des exceptions. Dieu donne une grâce. Hein, Madame Sayens, Rubin Sayens ou d'autres ont reçu une grâce. Bon, Dieu est souverain, il donne la grâce. Mais du coup, la femme ne peut plus exprimer vraiment sa féminité parce qu'elle est obligée de prendre sur elle et d'agir comme un homme. Voyez. Moi, je crois que le meilleur équilibre, c'est de travailler en couple, hein, où on peut justement l'un et l'autre exprimer sa masculinité, sa féminité dans un équilibre où chacun a sa place. Bon, moi, c'est ce que je pense. Je suis pas seul, mais voilà, c'est la seule exception, je dirais, qu'on pourrait faire, malgré des exceptions particulières, que la femme, on va pas lui mettre une charge de gouvernement, de diriger des choses, de prendre toutes les responsabilités d'une église, parce que c'est assez lourd et que ça lui enlève ce caractère féminin. Et d'ailleurs, la maman de Kevin, je crois qu'elle est d'accord avec ça. Elle a vu beaucoup de choses qui sont difficiles pour des femmes qui sont à la tête d'une église parce qu'elles ont du mal à gérer. Mais bon, s'il n'y a pas d'homme, Dieu donne la grâce. Mais je dirais que c'est la seule exception. Sinon, tous les ministères féminins. Par contre, il y a une chose, et je termine là-dessus, il y a un critère important, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est qu'elle ne cherche pas à arracher comme une proie d'être l'égal de l'homme. C'est que ne cherche pas à arracher comme une proie d'avoir un ministère. C'est que ne cherche pas à arracher le. C'est là qu'il y a le danger. Dès qu'on cherche à arracher, ça devient une catastrophe. Que ce soit chez un homme, chez une femme. Les femmes ont plus de difficultés parce qu'on leur barre l'accès. Donc forcément, elles cherchent, si elles sentent qu'elles ont un appel, cherchent à le valoriser. Et là, elles tombent dans le piège. Mais je crois que dans notre église, on cherche à valoriser le ministère féminin, et ne cherchez pas à arracher, mais simplement exercez-le. Et si elle est faite dans la paix, si elle est faite dans la simplicité, dans la soumission à la parole, eh bien, toutes les femmes sont les bienvenues ici pour exercer le ministère, et on va vous aider, vous encourager à le faire, parce que c'est conforme à la parole. Voilà ce que j'aimerais dire pour clore, en tant qu'application, et on reviendra peut-être dessus sur les applications du ministère féminin, mais je voulais simplement dire que c'est un problème de traduction, et c'est pas faute au traducteur, c'est parce qu'il n'avait pas les éléments pour comprendre ça, puisqu'il n'y a qu'en 1947, pendant 20 siècles, ces choses étaient cachées, et maintenant elles sont révélées. Donc il y a des livres en anglais ou en français, Philippe qui m'en a donné en français, qui expliquent bien ces choses-là, mais simplement les a découverts récemment.
Un tout petit mot pour vous rassurer, parce que c'est un peu, peut-être un petit peu desséchant, hein, ce genre de texte, mais c'était important de voir où on va et comment expliquer ces textes-là. Je vous signale simplement, pour ceux qui ont la Bible Thomson, oui, Thomson ou la NBS plutôt, pour la NBS, ils ont des notes sur les gnoses qui sont très bien faites. Enfin, moi, je sais que ça m'avait beaucoup éclairé, parce que je vous avouerais que ça m'énervait toujours de lire les épîtres de Jean. Je trouvais qu'ils se répétaient tout le temps. Je dis, mais enfin, misère, mais on le sait, ça, pourquoi il remet ça tout le temps, et oui, et Dieu est amour, et si on n'aime pas son frère, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu, etc. Je dis, ça me semblait très bizarre, ces répétitions. Et en fait, quand on lit les petites notes et qu'on comprend que Jean, lui aussi, était en train de se battre contre ses gnostiques, qui disaient que c'était pas grave, on n'avait pas besoin d'aimer les frères, etc. Et on comprend pourquoi il se répète comme ça. Vous voyez, souvent, on comprend les choses quand on connaît, souvent avec les enfants, on le fait, hein, on explique le contraire, c'est plus facile à comprendre. Donc, avec le contraire, on comprend mieux les choses. Donc, je vous le signale parce que ça peut vous sembler un peu nouveau, un petit peu bizarre, toutes ces histoires de gnose. Mais si vous avez la NBS, vous avez de très bonnes notes là-dessus à propos de l'épître de Jean, les trois épîtres de Jean. Hein. Donc, c'est pas des histoires, c'est tout à fait... D'ailleurs, vous savez, le Da Vinci Code s'est servi de ces trucs-là pour faire son film, hein, et son roman. Hein, faut pas rêver, ça a eu du succès. Ils ont pas tout inventé, ils en ont inventé, mais il s'est servi de ce genre de choses. Hein. Donc, voyez, c'est pas des trucs imaginaires. Hein. Donc, faut pas vous inquiéter. C'est ce qui a été dit là n'est pas à côté de la plaque. C'est des choses qui sont reconnues maintenant et qui expliquent bien les textes bibliques. Vous savez, c'est idéal de se remettre dans l'esprit de l'époque pour comprendre les textes parfois. C'est pas indispensable. Hein. On sera sauvé sans ça. Mais en tout cas, pour les textes sur la femme, c'était très, très nécessaire.
Un jour, j'ai lu, et je ne croyais pas, qu'à la Madeleine à Paris, il y avait l'ascension de Marie-Madeleine. Alors je dis, il faut que je voie. Alors j'y suis allé exprès un samedi pour voir dedans si c'était vrai. Effectivement, vous pouvez y aller. C'est un truc énorme, l'ascension de Marie-Madeleine. Elle est ascensionnée. C'est un maître, parce que Marie-Madeleine, qui est prostituée, qui est enfin la triple femme et tout ça, elle est utilisée dans les gnoses. Et Mitterrand s'en servait, tout ça, enfin tout. Je veux dire, c'est actuel, je veux dire, vous pouvez aller à la Madeleine, vous avez l'ascension, si vous ne la connaissez pas, vous allez l'apprendre, là, c'est marqué. Elle est ascensionnée, comme Marie, tout ça, voilà. Oui, on découvre des choses, hein. On est dans un monde qu'on ne connaît pas, parce que c'est des choses cachées, hein, mais qui sont existantes encore aujourd'hui. Donc on est dans, et là j'ai voulu voir toutes ces choses-là, pour ne pas vous dire de bêtises, mais moi je l'ai vu, hein, et j'y croyais pas. Et en plus il y a tous les mystiques femmes qui sont dans la Madeleine, qui sont priées et adorées par les saints qui viennent, haute cloque, enfin tous ces trucs-là. Vous voyez, c'est vraiment un temple de mysticisme féminin, très très fort. Voilà.